VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique en République démocratique du Congo. Après 7 mois d'attente, le président Félix Tshisekedi a finalement nommé son gouvernement ce lundi 26 août. Un gouvernement de 66 personnes qui n'a laissé aucune ouverture à l'opposition. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Enfin, le gouvernement est là, s'est exclamé le premier ministre devant la presse. Il était 5h du matin ce lundi lorsqu'après 17 heures d'attente, Sylvestre Ilunga se présenta devant les journalistes convoqués depuis la veille pour expliquer comment et pourquoi les négociations ont été si longues et évoquer quelques chiffres. D'abord sur la représentativité des 26 provinces de la RDC, de 25% pour le Grand Kassai à 6% pour la province orientale. Pour ce qui est du genre, le gouvernement Ilunga est composé à 83% d'hommes et à 17% des femmes. Un pourcentage encore faible, reconnaît-il, mais qu'il faut pondérer par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués au ministre femme, souligne Sylvestre Ilunga. 76% des personnes nommées n'ont jamais travaillé dans un gouvernement, notamment une ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, ainsi souligné le premier ministre Sylvestre Ilunga. Pour ce qui est de la composition, on note le retour de quelques personnalités du Front commun pour le Congo, le cas d'Azaria Sourberoi, de Thomas Luaka ou encore de Steve Mbikai. Aucune personnalité de l'opposition ne fait partie de ce premier gouvernement de Félix Tshisekedi, le président de la République qui s'est par ailleurs partagé quelques ministères de souveraineté avec son prédécesseur et allié Joseph Kabila. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant et les décisions prises ce week-end au sommet du G7 en France pour soutenir ce combat. Au Niger, une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram a fait 12 morts à Djifa, dans l'extrême sud-est du pays. L'incursion a eu lieu vendredi dernier à Lamana, un village de la commune de Guesquerou, situé près de la Komadougou, une rivière séparant le Niger du Nigeria. Les détails avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Selon plusieurs sources, les assaillants ont franchi la frontière entre les deux pays au niveau de la rivière de la Komadougou malgré sa crue en cette période. Ils parviennent au village de Lamana à l'heure de la prière du soir, isolent des jeunes en majorité et tirent à bout portant sur eux. 11 décèdent sur le champ et des témoins disent avoir aperçu un 12e corps avec une gorge tranchée. Les autorités n'ont pas communiqué sur cette nouvelle attaque attribuée à Boko Haram dans la région de Difa, qui, après une relative accalmie, renoue avec les assauts de la secte. Le dernier en date est celui du 10 août, où un véhicule des forces armées nigériennes a sauté sur une mine près de la ville de Bosso, occasionnant le décès de 2 militaires et les blessures de 5 autres. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes au Sahel, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont appelé dimanche au sommet du G7 à Biarritz à élargir à d'autres pays et à renforcer financièrement la coalition internationale soutenant les pays sahéliens dans leur combat contre les groupes djihadistes. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
À l'issue d'une réunion du G7 consacrée à l'Afrique, Mme Merkel et M. Macron ont exprimé la nécessité de changer d'échelle et de méthode, précisant que la situation ne cesse de se détériorer dans la région sahélienne. Les deux dirigeants ont annoncé la création d'un nouveau partenariat dont les modalités seront fixées lors d'une conférence franco-allemande d'ici la fin de l'année. L'Allemagne se sent très engagée à déclarer la chancelière. Cependant, l'initiative n'entraînera pas une augmentation du nombre de militaires allemands déployés dans la zone. Le président burkinabé Roch Marc-Christian Kaboré, qui préside actuellement le G5 Sahel, a insisté sur la nécessité d'un appui massif en termes de développement. De son côté, Robin Guittard, porte-parole d'Oxfam, a regretté que la France et l'Allemagne n'aient pris aucun engagement nouveau pour lutter contre la pauvreté et les inégalités dans la région, ni même de mobiliser leurs partenaires du G7 malgré l'urgence. Seulement 1% de l'aide publique au développement des pays du G7 va au Sahel, selon l'ONG.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, 4 organisations de la société civile ont publié pendant le week-end à N'Djamena un document intitulé « Rapport de mission d'enquête sur les conflits intercommunautaires ». C'est la conclusion d'enquête menée dans 4 provinces troublées. Le point avec notre correspondant sur place, André Kodmajingar.
Selon le rapport rendu public par 4 ONG nationales de défense des droits de l'homme, près de 150 personnes ont perdu leur vie dans 4 provinces en moins de 2 ans. Il s'agit des villages situés dans les provinces du Mayo-Kébi ouest et de la Tangilé au sud et les provinces du Wadaï et du Sila dans l'est du pays. Des milliers de cases incendiées, des personnes déplacées, de nombreux champs détruits et des centres de santé fermés. Les blessés qui nécessitent des opérations chirurgicales se cachent par peur d'être arrêtés sur les lits d'hospitalisation. Pour le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Maître Midaï Guéribaï, c'est la gestion du terroir exploitée par des hommes politiques qui a causé tous ces drames.
Les règles de gestion du terroir sont déterminées par la loi. Mais quand je commence par dire à mon chef de village, si vous m'élisez, si je suis ministre, mon village va être le chef-lieu du gouvernorat. Ça va être le département. Mais vous croyez que les gens ne vont pas me suivre? C'est ça les discours que nous tenons dans les villages et qui accompagnent les gens vers la mort. Gouverner, c'est prévenir. Comment ces agents de sécurité de l'État ne pourraient pas être au courant que les gens se sont organisés pour s'affronter? Et c'est au dernier moment que nous sommes des mesures complètement en dehors de la logique juridique.
Le président Idriss Déby Itno reconnaît que ces conflits prennent une autre tournure qu'il faut combattre à tout prix.
Le conflit intercommunautaire aujourd'hui, c'est un phénomène qui est aussi quelque part irrigué à partir de N'Djamena par des hommes politiques. Donc c'est une guerre totale, je pense, que nous devrions engager contre ceux qui portent des armes illégalement et contre ceux qui sont à l'origine des morts d'hommes sur l'ensemble du territoire.
Témoignage de Nadji Doudéry Azina, natif du village Colon, province de la Tangilé.
Les 4 et 5 juillet, les éléments de force sont allés et ont tiré à bout portant sur les gens. Ce n'est pas un conflit intercommunautaire, encore moins un conflit à l'échelle de l'État. C'est une tuerie organisée.
La justice de la dite province a été saisie pour situer les responsabilités. Mais Nadji Doudéry Azina dit n'avoir pas confiance en cette justice.
Au moment où nous avons 30 quelques personnes qui sont arrêtées comme ça. S'il y a bagarre, il y a 2 camps. Mais si on arrête les gens d'un camp et les autres camps sont en liberté, vous parlez de quelle justice? La justice divine peut-être. Pour le moment, on n'attend rien de la justice du Châtelet.
Le ministre de la Justice, Dime Arabi, se veut rassurant.
Ces gens ont été transférés ici. Nous avons instruit le dessaisissement du tribunal de Pala au profit de celui de N'Djamena pour que la responsabilité soit située dans cette affaire. Des gens qui ont été interpellés et transférés à N'Djamena, toutes les deux parties belligérantes font partie. Et c'est notre justice qui va juger ces faits-là. Il n'y aura pas d'autre justice qui va venir le faire à notre place.
André Godmadingar, N'Djamena, VOA Afrique.
Un autre exemple de conflit intercommunautaire en Afrique, mais transfrontalier. Cette fois, au Kenya, 12 personnes ont été tuées dans le comté de Marsabit, dans le nord du pays, dans 2 attaques menées samedi et dimanche par des voleurs de bétail soupçonnés d'être des Borana venus de l'Éthiopie voisine. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Selon la police kenyane, samedi vers 18h locale, des voleurs de bétail soupçonnés d'être des Éthiopiens Borana ont attaqué des éleveurs kenyans d'ethnie Gabra. 5 hommes Gabra ont été tués et 3 autres grièvement blessés. Les agresseurs se sont enfuis avec environ 500 têtes de bétail. Une autre attaque a eu lieu dimanche contre un village des environs. Les assaillants, à nouveau soupçonnés d'être des Borana éthiopiens, ont tué 4 adultes Gabra et 3 enfants âgés de 13 à 15 ans, dont une fille, et blessé 4 personnes. Un des voleurs a été tué dans cette seconde attaque. La police kenyane a dépêché des unités pour poursuivre les criminels et occuper le terrain en vue d'empêcher de nouvelles attaques et tueries. Les vols de bétail ou les querelles portant sur des sources d'eau ou des pâturages sont traditionnellement fréquents dans les zones pastorales du nord du Kenya.
Afrique du Nord maintenant, en Algérie, la justice a désigné des administrateurs pour assurer la gestion des sociétés appartenant à des hommes d'affaires proches du président déchu Abdelaziz Bouteflika, incarcérés pour des faits supposés de corruption. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la Cour d'Alger. Cette mesure prise le 22 août vise à assurer la pérennité des activités des dites sociétés et à leur permettre de préserver les emplois et d'honorer leurs engagements envers les tiers, a précisé le tribunal dans un communiqué. Et pour terminer, actualité américaine, le président Donald Trump a déclaré aujourd'hui avoir dit à son homologue français Emmanuel Macron, allez-y, lorsque ce dernier lui a annoncé la visite surprise du chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif dimanche à Biarritz, en marge du sommet du G7. J'ai été au courant de tout ce qu'il faisait et j'ai approuvé, a indiqué le chef de l'exécutif américain, interrogé sur l'initiative du président français. Mais le locataire de la Maison-Blanche a ajouté, je ne veux pas rencontrer le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif, il est trop tôt pour le rencontrer, a souligné Donald Trump alors que les relations entre Washington et Téhéran sont très tendues à la suite de la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien par le président américain.